Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités. Jésus vint debout au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Or Thomas, l'un des 12 disciples surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas ». Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient et, debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il s'adresse à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus reprit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ?» Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Tous les textes comme celui d'aujourd'hui qui englobent, précèdent et suivent aussi, englobent vraiment les événements de la résurrection, se donnent régulièrement, progressivement, en plusieurs phases. Il y a d'abord le constat du tombeau vide le matin de Pâques, puis les apparitions du ressuscité aux femmes et aux disciples, aux premiers témoins, et ensuite les conséquences d'une vie qui se poursuit dans le rassemblement et l'expansion d'une communauté qui n'est plus équipée alors que des seules paroles d'un disparu qui a choisi de ne pas s'en aller tout à fait. Jésus disparaît, puis réapparaît, puis s'en va de nouveau. Trois phases. Mais à chaque fois, en changeant de statut. Trois phases successives, donc, où Jésus change, se transforme. L'homme Jésus meurt, on le sait, pour faire apparaître le ressuscité. Le ressuscité s'en va de nouveau pour nous laisser une parole immortelle, une chose fragile seulement en apparence, mais apparemment assez puissante pour ne pas se laisser enfermer à clé dans un vulgaire tombeau. On se souvient aussi de cet énorme malentendu qui accueille Jésus à Jérusalem. Vous vous souvenez du « Hosanna au fils de David », c'est-à-dire « Remonte vite sur le trône, successeur de David ». Mais les choses se passeront autrement, elles seront dans un premier temps vécues comme une erreur, une anomalie ou un changement de programme vraiment catastrophique pour les disciples. Et pourtant Jésus n'avait pas d'autre programme que celui-ci, dispenser une parole qui sera désormais la présence divine en l'homme. C'était sa mission. Et cette promesse vient de loin. Elle s'enracine dans certaines paroles prophétiques qui remontent à plusieurs siècles et que beaucoup avaient oubliées ou uniquement interprétées dans un sens politique. Jésus n'a fait qu'accomplir l'une des nombreuses paroles des prophètes qui annonçaient cette chose qui allait venir, comme par exemple chez Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous les observiez et que vous pratiquiez mes lois. » Jésus a repris quelque chose qui résonnait déjà dans les oreilles et dans les têtes depuis des siècles. Et en reprenant cette tradition, il a rendu inutile la présence de Dieu au cœur de la pierre, si vous voulez, pour mieux l'enfouir au cœur de la chair, la nôtre. Nous étions annoncés comme le véhicule du divin. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Une parole intégrée profondément, comme la levure dans la pâte. Cette parole intégrée ne peut pas davantage enfermer Jésus dans une tombe en pierre que domestiquer autrefois un Dieu qui parle en l'enfermant dans un temple en pierre. Avec l'apparition de Jésus aux disciples, Jean nous donne sa version de la deuxième phase, puisque c'est là où nous en sommes aujourd'hui, avec son vocabulaire propre et son style bien reconnaissable. C'est l'un des textes qui se relisent régulièrement dans un jour comme aujourd'hui, le premier dimanche après Pâques. C'est ici que les disciples doivent comprendre que ce qui s'est passé n'est ni une catastrophe ni une perte, mais un accomplissement et un gain considérable. Jésus annonce en réalité une libération d'un genre particulier. D'abord, une libération pour Dieu lui-même. C'est lui qui est libre de nous à Pâques. Les disciples, eux, restent enfermés. Cette liberté n'est pas encore acquise pour eux, c'est pour ça qu'ils se sont eux-mêmes enfermés à clé, claquemurés par crainte des autorités. Et ils reçoivent leur premier envoi en mission ainsi que la réception immédiate de l'Esprit. C'est une sorte de Pentecôte avant l'heure, puisqu'on souffle un esprit sur eux et qu'on les envoie. Vous voyez, la troisième phase pointe à l'horizon. Nous lisons au verset 19 que les disciples se trouvent dans une maison aux portes verrouillées. Et puis plus loin, au verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Il faut que les disciples passent par cette réplique du tombeau qui s'ouvre, parce que si c'est arrivé à quelqu'un d'autre, il faut que ce soit à eux, dorénavant, que ça arrive. L'intérieur, c'est la sécurité, on s'enferme, mais une sécurité fragile, une position de repli aussi peut-être, seule position possible en tout cas pendant un certain temps, surtout quand on a peur, et les disciples, il faut le rappeler, sont traqués, ils ont donc des raisons d'avoir peur. L'extérieur est de son côté identifié à un danger provisoire ou durable, en tout cas on hésite à ouvrir les portes et à sortir de ce lieu de sécurité. Entre l'intérieur et l'extérieur se trouvent des murs, des cloisons, des portes, des fenêtres, comparables aux murs de la maison de Lazare et aussi au tombeau vide de ces dernières semaines qui, quand le moment est venu, ont bien dû s'ouvrir pour laisser sortir quelque chose qui parle. Nous trouvons un refuge bien naturel et bien compréhensible à l'intérieur. Nous sommes tous comme ça, un peu claquemurés, comme si la sécurité relative devait suffire. Mais ces trois textes de l'enfermement, dont nous lisons l'une des phases, la deuxième phase aujourd'hui, nous disent que nous sommes attendus dehors, à l'extérieur, de nos refuges provisoires et relatifs. La vie est ailleurs. Il y a une ou des bonnes nouvelles à annoncer, et ça ne se fera pas ici. Ça peut se faire d'abord et entre vous, dans ce lieu, mais vous ne garderez pas cette parole pour vous-même indéfiniment. L'ouverture des portes, l'ouverture d'une tombe, symbolise la divulgation. D'ailleurs, en français, on dit délivrer un message, comme si la parole longtemps retenue sortait en fin de prison quand on ouvre la bouche. Mais pour qu'une délivrance ait lieu, il faut être prêt. Tous les détenus qui on apprend qu'ils doivent sortir de prison, en général, acceptent de sortir, vont rechercher leurs affaires et espèrent être attendus au dehors. Certains préfèrent rester à l'intérieur. Pour qu'une délivrance ait lieu, il faut être prêt ou ou si vous préférez être mûr. Thomas, lui, est encore vert, pas tout à fait mûr, parce qu'il demande des gages et des assurances. Quand on demande à être assuré, rassuré, c'est qu'on n'est pas prêt à sortir, c'est qu'on a encore au moins un peu peur du dehors. Et les témoignages des autres ne suffisent pas à le rassurer. Nous avons vu le Seigneur, c'est lui, nous avons vu les traces, etc. Ça ne suffit pas, parce qu'on n'est pas toujours rassuré par ce qu'on entend, même quand ça vient de la bouche de quelqu'un en qui on a confiance. C'est dire le degré de peur qui peut parfois nous atteindre, ou le degré de doute. Dans un premier temps, donc, Thomas refuse de se contenter des sources secondaires, parce qu'après tout, un témoignage, hein, c'est l'homme qui a vu l'ours, ça ne l'intéresse pas dans un premier temps, Thomas. Il préfère la source principale, le Seigneur lui-même, et comme il a la bonne idée de revenir une deuxième fois, je vais lui poser la question directement. Thomas veut voir la trace des clous, il va la voir, il veut enfoncer sa main dans le côté, il l'enfoncera, il aura tout ce qu'il demande. Et il retrouvera peut-être la confiance. Mais, et c'est ça le vrai miracle pour Thomas, il va découvrir aussi en même temps que ça ne fait que commencer, ça n'est pas la fin de l'histoire. Rompant un deuxième enfermement, puisque les disciples, Thomas compris, sont toujours entre quatre murs dans la même maison, Jésus apparaît pour la seconde fois et tout se passe comme annoncé. La confiance revient pour Thomas. Il a vu les traces, les trous dans la main, le côté, la blessure sur le flanc. Mais Jésus reprend la parole pour lui dire ce qui dorénavant l'attend. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Parce que ce sera le lot de tous ceux qui viendront derrière toi. » C'est-à-dire le nôtre, évidemment. Thomas nous est présenté par Jean comme le dernier représentant d'un petit groupe de privilégiés. Ça n'a pas duré quelques jours ou quelques semaines, ça faisait des siècles que tout le monde vivait à ce régime, certains en tout cas, pas tout le monde, voir et entendre la parole divine en contact immédiat avec la source. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, bien sûr. Quand tout un peuple d'Israël attend des tablettes en bas de la montagne, il n'y en a qu'un qui monte pour aller les chercher. C'est quand même un peu plus élitiste. Mais c'était déjà le cas d'Adam et Ève, de Noé, de Moïse et de bien d'autres. Une conversation tout de même privilégiée. Plutôt que d'écouter les autres, allons à la source directement. Même Moïse avait dû se résoudre à revoir ses prétentions à la baisse en descendant une deuxième fois de la montagne, non pas avec l'original qu'il avait cassé, mais avec une copie qui n'était plus tracée du doigt de Dieu, mais écrite par lui cette fois, avec ce qu'il avait apparemment compris de ce qu'on lui disait. Ce n'est plus la même chose. Une transcription, une œuvre humaine, peut-être imparfaite, mais c'est mieux que rien. Et puis, il était le seul à avoir parlé avec Dieu. C'est un peu ce qui vient d'arriver à Thomas. Après lui et les autres disciples, il faudra se faire à l'idée que la source originale existe, parle encore, émet, mais de loin, et que les paroles émises nous sont retransmises par une chaîne de témoins, et que parfois il y a un peu de déperdition, de la friture sur la ligne, comme on dit. Il faudra laisser la source originale derrière soi, pas pour l'oublier ou la reléguer au rayon des antiquités, mais plutôt pour renouer avec elle à travers le voile d'un relatif, d'un provisoire, d'un imparfait, qu'il faudra bien assumer parce que nous n'avons pas mieux. Accepter d'apercevoir Dieu de loin. C'est ce que Thomas commence à comprendre un peu, comme à travers un brouillard, mais impossible à dissiper. Et il faudra s'en contenter à l'avenir. Cette mini-Pentecôte avant l'heure, eh bien, un double lâcher-prise, celle de l'humain que nous essayons d'être, et qui doit assumer son éloignement de la source, pas comme une anomalie, une catastrophe ou un accident, encore une fois, mais comme la pure normalité. C'est pour ça qu'Adam et Ève sont chassés loin. C'est parce qu'une voix trop forte est mieux perçue quand on l'entend d'un peu plus loin. Caïn aussi. Le bannissement était une mesure de sûreté, plus qu'une véritable sanction. Et puis, du côté de Dieu aussi, il y a un certain lâcher-prise. On n'incarne pas la vérité pleine et entière contenue dans un buisson ardent sans savoir qu'on peut brûler ceux qui s'en approchent. Ici encore, rien d'anormal, rien de catastrophique, une mise à distance qui est comme un geste d'amour et de considération, beaucoup plus qu'un réflexe de rejet. Jésus apparaît deux fois dans ce texte pour rappeler cette évidence, notre condition au quotidien, tant que le monde est ce qu'il est, c'est de croire sans avoir vu de près ou entendu de tout près. Avoir confiance en un avenir encore à découvrir, encore à dire, à partager, à inventer sans doute. Laisser derrière nous nos illusions d'accaparer la vérité comme si on pouvait la garder avec nous, ce qu'espéraient peut-être ses disciples qui s'enferment entre eux. Si nous comprenons cela, alors nous sommes vraiment à notre tour sortis du tombeau vide. Mais nous sommes surtout, parce que ça ne s'arrête pas là, ce n'est qu'un commencement, à bonne distance de nos illusions, libérés de nos idoles, comme le disait Ézéchiel que je citais tout à l'heure, jusqu'à la prochaine tentation de mainmise, hein, parce que ça, c'est notre pente naturelle, évidemment. Et nous sommes donc libres d'accumuler des traces de bonnes nouvelles qui nous font vivre, de les donner à d'autres aussi, petit fragment d'un secret assez immense qu'il faudra partager avec d'autres, parce que l'heure de la divulgation a sonné. Le tombeau s'est ouvert, une parole est sortie. Tu vas faire la même chose en ouvrant la bouche et en disant des bonnes nouvelles à ceux qui les attendent. L'Évangile, puisque c'est son sens, bonne nouvelle, c'est très exactement cela. Nous sommes des véhicules de Dieu, c'est-à-dire habités par une parole immortelle que rien n'a retenue. Elle est enfermée dans notre cœur de chair, et c'est pour cela que nous ne pouvons plus l'empêcher de sortir de nous. Elle se ferait toujours un passage pour tenter de faire autant que possible toute chose nouvelle. Comme nous le suggère Antoine Blondin dans cette jolie phrase, « Un jour, nous abattrons les cloisons de notre prison. Nous parlerons à des gens qui nous répondront. Le malentendu se dissipera entre les morts et les vivants. » Les morts n'auront plus de secrets pour nous. Un jour, nous prendrons des trains qui partent. La rencontre avec le ressuscité de ses disciples enfermés, c'était une rencontre nécessaire pour eux, leur dire toute la liberté qui était la leur et qui est aussi la nôtre si longtemps après, dans l'après-Pâques, dans l'après-tombeau vide, avec une Pentecôte en ligne de mire dont ils ont en quelque sorte un acompte ce jour-là. Et le temps de l'Église qui suivra et qui est devant nous aussi d'ici quelques semaines. C'est pour nous, maintenant que le tombeau est vide et que notre bouche est pleine de choses à dire, le temps de la divulgation de l'Évangile sous tous ses aspects, puisque l'heure a sonné. Amen.